Eh bien, bonjour, je vous souhaite à tous une bonne année par l'imagination, puisque nous sommes en nombre très réduit dans cette salle. Et j'aurai le plaisir de parler presque littéralement dans le vide pendant les cours de cette année, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un pour regarder la diffusion qui se fera très prochainement. Pour ce qui est du séminaire, je ferai à la fin une petite mise au point sur la façon dont nous allons procéder. Pour l'instant, je vais commencer le cours directement. Il faut dire qu'à la suite d'un événement administratif tout à fait inattendu, alors que mes cours au Collège de France devaient prendre fin l'an dernier, enfin, c'est-à-dire au mois de juin 2020, j'ai à présent la possibilité de les poursuivre pendant 3 ans. Et cela me donne une occasion tout à fait inespérée de compléter le parcours que j'avais envisagé. Comme j'étais parti sur un programme de 9 ans, j'avais dû faire quelques choix contrariant pour la logique de ce cours, et j'avais donc terminé sur Motori no Rinaga l'an dernier. Cette obligation n'était pas, en fin de compte, si mauvaise que cela, puisque le résultat était que j'avais dû renoncer un tout petit peu à l'ordre chronologique et que j'avais abordé Motori no Rinaga, qui, comme vous le savez, occupe la fin du XVIIIe siècle, de 1730 à 1803, si je ne me trompe. J'avais abordé Motori no Rinaga et son rapport philologique et intellectuel entre le Genji Monogatari et le Kojiki, où je ne reviens pas là-dessus, tout de suite après l'année que j'avais consacrée au Genji Monogatari, ce qui était donc d'une logique non pas chronologique, mais tout à fait idéologique, si je puis dire, puisque Motori no Rinaga avait fait la moitié de son parcours intellectuel à partir du Genji. Donc c'était quelque chose qui était tout à fait bénéfique, et ce qui nous a permis, vous vous souvenez peut-être, de faire la connexion entre les deux voies, si j'ose dire, la voie du Genji Monogatari, puisque j'avais remarqué qu'on pouvait suivre la structure narrative du roman en termes de voie. Michi, vous vous souvenez que c'était un mot qui apparaissait dans le premier poème et dans le dernier poème, et il n'est pas la peine de rappeler ce que la voix représente dans la pensée de No Rinaga. Je dirais même qu'elle représente tout. Ce qui nous a permis aussi de constater à quel point l'idée de mythologie chez No Rinaga était en fin de compte dérivée presque naturellement de son intérêt premier pour le Genji Monogatari, à travers le concept, l'idée qu'il se faisait de la langue. Il a cherché à remonter le cours de la voix, à aller à contre-voix, si vous voulez, à partir de son intérêt philologique pour le Genji. Ce qui nous a rappelé la primauté, l'importance de la mythologie dans l'élaboration de la pensée japonaise. Et j'ai fait récemment justement une petite conférence à la Société asiatique que je vous invite à regarder. Vous pouvez la regarder sur le site de la Société asiatique en mettant la date du 18 décembre 2020, n'est-ce pas, et qui était consacrée justement à la mythologie, langue et poésie au Japon, à partir des travaux c'était une élaboration à partir des travaux d'un indianiste germano-américain, Witzel, n'est-ce pas, et qui faisait grand cas de la mythologie japonaise pour expliquer, enfin pour point de comparaison avec la mythologie indienne. Bon, je terminais cette conférence en citant le mot de Tolkien. Vous savez que lorsque Max Müller avait parlé de la mythologie comme une sorte de maladie du langage, et Tolkien, dans une conférence célèbre, enfin dans le brouillon d'une conférence célèbre, il ne l'a pas, ça n'a pas été édité, mais heureusement quelqu'un a eu la bonne idée d'aller regarder les brouillons qu'il avait faits, il a trouvé cette idée tout à fait extraordinaire, où, prenant le contre-pied de Max Müller, Tolkien disait que la mythologie est langue et la langue est mythologie. Donc c'est, vous voyez que c'est l'un des fils rouges qui pourrait aussi nous servir pour ce cours. Je vous invite à regarder cette conférence qui est disponible sur YouTube à présent. Mais donc, maintenant que j'ai ces 3 ans de répit, si j'ose dire, je vais en profiter pour revenir un peu en arrière et consacrer cette première année. Je ne révélerai pas encore ce que seront les autres années, mais cette première année supplémentaire donc, va me permettre de revenir un peu en arrière de façon plus logique, puisque entre Motoli Norinaga et le Genji, enfin entre le Genji et Norinaga, il y a bien sûr plusieurs étapes importantes dans cette enquête que je fais sur l'évolution de la culture japonaise, de la civilisation japonaise, qui aurait comme moteur, l'un des moteurs, des éléments les plus dynamiques de cette évolution, c'est ce que je résume dans l'appellation Wakan, n'est-ce pas, c'est-à-dire la relation sino-japonaise, ou plutôt japono-chinoise, Wakan, qui est une relation langagière perpétuellement présente au Japon jusqu'à l'époque moderne, mais qu'on n'a jamais, à laquelle on n'attribue pas le rôle fondamental qui est derrière, n'est-ce pas? Et cette voix de la parole, si vous voulez, Kotoba no Michi, pour reprendre un peu la phraséologie de Norinaga, cette voix de la parole passe, à mon sens, par la diffusion du style et de la mentalité du Genji Monogatari dans l'ensemble de la littérature japonaise. Et l'un des éléments importants, disons, de point de permutation de la lignée du Genji Monogatari pour le diffuser de façon plus approfondie, plus prendre racine vraiment dans l'ensemble de la société et de la culture japonaise, c'est ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec l'œuvre du romancier Ihara Saikaku, dont vous avez vu les 1642-1693. Donc vous voyez qu'il date d'un siècle avant Norinaga, et je vais revenir tout à l'heure ou la semaine prochaine sur l'importance de Saikaku pour expliquer quelques catégories intellectuelles, enfin, ou critiques de Motori Norinaga. Donc Saikaku, tout le monde le connaît. Je reviendrai sur la façon dont il a assimilé en quelque sorte le Genji Monogatari. Mais, enfin, pour revenir à Saikaku, donc, tout le monde le connaît puisqu'il a été très largement traduit en français. Beaucoup de choses sont rééditées chez Gallimard, chez Piquet, etc. Je donnerai éventuellement une petite bibliographie des traductions, mais bon, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle librairie. Et une chose est sûre, c'est qu'il est, à peu près sûre, c'est que Ihara Saikaku est sans doute le romancier japonais prémoderne le plus connu après Murasaki Shikibu. Donc, 600 ans, plus de 600 ans, presque 700 ans après Murasaki Shikibu, c'est Ihara Saikaku. Dans le fameux discours du prix Nobel de Kawabata Yasunari, qui a été un peu, vous vous souvenez, le point de départ de notre enquête, Kawabata ne daigne pas mentionner ne daigne pas mentionner le Ihara Saikaku. Mais quand même, il a été. Alors, vous vous souvenez que je vous ai donné. Il parle bien sûr du Genji Monogatari. Il en parle. Il le mentionne à plusieurs reprises et il en parle comme d'un miracle unique au monde, Sekai no Kiseki, n'est-ce pas ? Et j'ai été assez surpris de retrouver cette phrase même chez cet écrivain, Narushima Chikuzan, qui a écrit, donc qui date de la première moitié du 19e siècle, qui a écrit un recueil critique sur le Genji Monogatari, vous voyez, le Shishigimpyo de 1838, et il y a ces deux phrases qui sont presque mot pour mot ce qu'en disait Kawabata. Oh, c'est sans doute une rencontre tout à fait fortuite. Je ne pense pas que Kawabata ait été le chercher bien, mais vous voyez, Gengo, c'est-à-dire Genji Monogatari, wa Tenka no Kibun Nadi, c'est un texte miraculeux de notre pays, n'est-ce pas ? Et l'autre, le Shishi, n'est-ce pas ? C'est pareil, l'histoire de Genji. Alors là, il va un peu plus loin. Uchu Daiichi Kishonari, c'est le livre le plus extraordinaire de l'univers, n'est-ce pas ? Donc vous voyez que ce que disait Kawabata n'est pas une opinion personnelle, mais quelque chose qui est bien représenté au Japon. Alors, nous allons donc revenir à Ihara Saikaku, dont les dates couvrent essentiellement la seconde moitié du XVIIe siècle, qui est justement une époque tout à fait extraordinaire dans le bouillonnement, l'effervescence intellectuelle japonaise. Si vous vous souvenez du cours de l'année dernière, je n'ai pas de redonner les noms ici, ce n'est pas la peine, mais Keiichi, n'est-ce pas, qui est le grand fondateur de la philologie japonaise que l'on désignera du terme de kokugaku, n'est-ce pas, les études nationales, que je préfère traduire par philologie nationale ou philologie japonaise, et certainement pas par native studies, le terme qui est à la mode aux États-Unis, qui est vraiment une récupération une espèce de plaquage d'étiquettes tout à fait inconsidéré, me semble-t-il. Donc, Keiichi, c'est 1640-1701, et de Keiichi jusqu'à Hirata Atsutane, qui est mort, lui, en 1843, nous avons donc cette grande époque de la philologie japonaise qui est passée par Motori Norinaga et son maître Kamo Nobabuchi, n'est-ce pas, qui est 1697-1669. Donc nous avons tout cela à cette époque-là. Et en même temps, à la même époque, on a ce grand... Bon, ça, nous avons... grosso modo, en exagérant un peu en ajustant un peu les dates, n'est-ce pas, nous avons dans la littérature japonaise ce grand foisonnement littéraire que l'on a appelé parfois, qu'on appelle encore souvent Genroku Bunka, n'est-ce pas, la culture de l'ère Genroku, vous savez que l'histoire japonaise, les périodes au Japon sont divisées en périodes qui ne correspondent pas dans le Japon pré-moderne au règne d'un empereur. Un même empereur peut avoir plusieurs ères pendant son règne. L'ère Genroku, donc vous voyez ici, dure une douzaine d'années. En réajustant un peu, on peut mettre dans ces grands tenants de l'ère Genroku, on peut mettre évidemment Ihara Saikaku. Il y a évidemment le grand poète de haïku Matsuo Basho, n'est-ce pas, Basho que tout le monde connaît, qui est pratiquement l'exact contemporain de Saikaku, puisqu'il est né en 1644, il est mort en 1694, voyez, à 2 ans près à chaque fois. Et puis vous avez bien sûr, légèrement postérieur, Chikamatsu Manzaemon, le grand homme du théâtre au sens large, le Joruri, la narration théâtrale, si vous voulez, et le Kabuki, sans parler du Bunraku aussi. Et Chikamatsu Manzaemon, lui, légèrement postérieur, d'une dizaine d'années, 1653-1724. Et chacun a illustré d'une façon différente cette culture de Gendoku, qui est d'une certaine façon l'ancêtre le plus immédiat de la littérature japonaise de Meiji. Alors, si nous laissons de côté Chikamatsu Manzaemon, qui a aussi une petite œuvre poétique d'ailleurs, mais nous remarquons que la Basho et Saikaku se rencontrent dans un genre tout à fait particulier maintenant, mais qui était très répandu à l'époque, qui est le haïku, qu'on appelait plutôt le haikai. Bon, je ne reviens pas sur la terminologie, je dirais plutôt haikai, puisque le haïku est une forme relativement moderne, n'est-ce pas ? Et ce sont avant tout, ces basho comme saikaku, sont des acteurs importants dans ce mouvement poétique, qui est bien sûr une évolution de l'époque d'Edo, mais qui se place tout à fait dans la continuité des renga, donc des poèmes enchaînés, dont la vogue commence dès Heian, c'est-à-dire que le haikai, par sa stylistique, par ses procédés poétiques, sont en prise directe avec l'esthétique de Heian, ce qui est très, très important pour comprendre Saikaku, n'est-ce pas ? Et donc c'est une forme, en quelque sorte, japonisée et classicisée de la culture japonaise, disons, plus proche du Genji Monogatari, et on peut dire que Saikaku, par son intérêt poétique, et nous verrons après par l'enchaînement qu'il fait avec le Genji, il se situe dans cette continuité langagière qu'on pourrait appeler la lignée du Genji d'un côté, opposée à la lignée du Heike Monogatari de l'autre. Vous savez que j'ai déjà fait allusion à cette histoire des deux grands styles que Kawabata et Yasunari, d'ailleurs, non pas dans le discours du Nobel, mais dans d'autres écrits, soulignent aussi. Il y a une sorte de dualité de la stylistique littéraire japonaise, celle qu'on pourrait appeler grosso modo du Genji et l'autre du Heike. Et en quoi se distingue-t-elle ? Eh bien, elle se distingue dans le degré d'altération, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez dans le degré de décalage qu'elles opèrent sur le fond chinois sur lequel les deux reposent. Vous vous souvenez, nous avons parlé du Genji Monogatari que l'on peut lire à deux niveaux, si vous voulez. Un niveau qui est historique et littéraire, très inspiré de la culture chinoise. Et je renvoie d'ailleurs ceux que cela intéresse au très bon article que Mme Terada Sumie a fait pour le colloque Hiéroglossie 2, dont les actes vont bientôt paraître aux éditions de l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France. Vous verrez l'importance de la référence historique aux mémoires historiques de Sima Qian, par exemple chinois, et puis évidemment à la poésie de Po Chui, de Hakurakuten, n'est-ce pas, le chant des longs regrets. Donc tout ça, c'est très important, mais c'est soigneusement encrypté dans une prose japonaise tout à fait très libéré de l'influence chinoise. Le Heike Monogatari, tout au contraire, peut se présenter en quelque sorte comme une lecture japonaise d'un texte chinois qui n'existe pas, mais que chacun peut reconstituer. Je vous donne comme exemple, je l'ai déjà donné ici, me semble-t-il, le très célèbre début du Genji Monogatari, du Heike Monogatari, vous savez, le son de la cloche du temple de Gion. Dans le son de la cloche du temple de Gion résonne l'idée selon laquelle tous les composés sont impermanents. Et Shara-shōjū no hana no iro, shōja shisui no kotowari o arawasu, et la couleur des fleurs des arbres shala, c'est-à-dire les arbres qui étaient au nirvana de Bouddha, qui sont devenus blanches, n'est-ce pas, eh bien, manifeste le principe selon lequel tout ce qui prospère doit fatalement déchoir. Et je vous ai donné au début, là, dans la première partie, le texte japonais tel que nous avons, et je vous donne ensuite une restitution, ce qu'on pourrait dire en fukubun, en chinois, ça fait une phrase chinoise absolument parfaite. Donc, vous voyez que les auteurs du Heike Monogatari raisonnaient presque en langue chinoise. Un autre exemple très célèbre, c'est le début du Hōjōki de 1212, n'est-ce pas, le célèbre début du Hōjōki. Yukukawa no nagare wa taezu shite shika momoto no mizu ni arazu. On peut le traduire, donc le courant de la... Je vous le donne selon le meilleur manuscrit, ne faites pas attention à l'écriture un peu bizarre. Mais ça se restitue pratiquement, automatiquement, en chinois, selon ce que je vous ai donné dans la deuxième ligne. Et c'est d'autant plus facile que ce fameux début, n'est-ce pas, le courant de l'eau, littéralement, le courant de la rivière qui va, ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais, et cependant, ce n'est jamais la même eau, n'est-ce pas, ce n'est jamais l'eau de l'origine. Et ce terme de Yukukawa no nagare taezu shite, c'est en réalité une citation chinoise d'un texte chinois très connu, le Senjimon, qui est en quelque sorte le Béaba, l'abécédaire, enfin c'est le livre des 1000 caractères, n'est-ce pas, un livre qui a été très utilisé au Japon dès le 7e, 8e siècle, et qui a été rédigé en Chine au 6e siècle, semble-t-il, et je vous donne ici, n'est-ce pas, vous avez Kawa no nagare yamazu, ou on peut même le dire taezu, c'est exactement le Hōjōki. Donc vous avez cette autre lignée donc stylistique qui est lignée plus proprement sino-japonaise et qui a été exemplifiée au Japon un peu après, c'est pour contraster avec Ihara Saikaku, à l'époque d'Edo, à la fin de l'époque d'Edo, vous voyez, il est mort en 1848, c'était certainement Bakin, donc Kyokutei Bakin, qu'on pourrait appeler l'Alexandre Dumas japonais, si vous voulez, c'était certainement l'écrivain le plus populaire. Je vous donne quelques-uns de ses... son livre le plus connu, qui est encore très lu au Japon, bien que ce soit un roman fleuve, n'est-ce pas, le Hakkenden, le Nanso Satomi Hakkenden, la vie des huit chiens, enfin des huit frères qui sont descendants de, ce sont des humains mais seraient descendants d'un chien, qui s'inspire énormément du grand roman chinois le Suikoden, au bord de l'eau, traduit en français au bord de l'eau, et qui a pris toute son importance au Japon à l'époque. Et je vous donne, par exemple, pour vous montrer qu'on est exactement dans la lignée du Heike Monogatari, l'un des premiers chapitres de Bakin, enfin, ce sont les sous-titres, vous me direz, mais vous voyez que ça se présente comme Suemotoku ono koshite, setsu ni shisu, hakuryu uno kumo wa san, hasande minami ni kaeru. C'est en réalité, on peut le traduire, on peut le resituer presque automatiquement en chinois classique, n'est-ce pas? Donc, Suemoto meurt dans la dignité, si vous voulez, en laissant de ses dernières paroles, ses dernières inscriptions, et le dragon blanc, le blanc dragon, retourne vers le sud à travers les nuages. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on a systématiquement donc, décalées du chinois et qui donnent un intérêt très particulier, un contraste très particulier avec Saikaku. Donc, on peut faire en quelque sorte un parallèle contrasté entre les deux. Mais c'est Saikaku qui nous intéressera cette année, et il nous intéressera pour une raison tout à fait pour illustrer notre propos, n'est-ce pas, notre quête du rapport Wakan dans la narration romanesque. Et je pourrais donner comme point de départ de cette enquête, vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien donner une citation représentative, quelque chose qui montre que notre questionnement ne sera pas tout à fait issu de mon imagination. Je voulais, pour montrer que ce rapport est tout à fait valide, revenir à une phrase de Tanizaki Junichiro, le grand romancier que nous avons la chance d'avoir en français maintenant grâce à deux volumes entiers de la Pléiade qui lui sont consacrés. Et donc Tanizaki Junichiro, qui est sans doute l'un des grands romanciers japonais du XXe siècle, et on a eu tellement, vous me direz que c'est difficile de... Mais Tanizaki se distingue tout particulièrement. Et c'est sans doute lui, c'est peut-être pas le premier, mais certainement le plus populaire, qui a lancé cette mode littéraire qu'on appelle en japonais les bunsho tokuhon, qui pourrait se traduire en anglais par literary reader, n'est-ce pas, livre de lecture littéraire. Ce sont des sortes d'essais, parfois couplés avec une anthologie, qu'un grand écrivain compose pour montrer ce qu'il pense de ses prédécesseurs ou voire de ses confrères de la même époque. C'est une sorte de réflexion sur la littérature menée par quelqu'un qui, non pas critique, mais qui est écrivain. Donc il le fait d'un point de vue professionnel, en quelque sorte. Et c'est Bunsho Tokuhon. Je pense que la meilleure façon de le traduire en français, ce serait plutôt l'art d'écrire. Quelque chose qu'on a déjà fait aussi qui se pratique souvent en Occident, mais... Donc ce Bunsho Tokuhon de Tanizaki a été publié en 1934. Et c'est amusant de voir qu'en 1950, c'est Kawabata Yasunari qui a publié sous son nom un livre du même titre, exactement. Et puis en 1959, c'est Mishima Yukio, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est écrire, un art d'écrire est quelque sorte devenu un parcours obligé pour les grands écrivains. Ça a continué après, il y en a encore, Maruya Saichi et bien d'autres l'ont fait. Mais il y a quelque chose de commun, me semble-t-il, dans ces arts d'écrire de Tanizaki, de Kawabata et de Mishima, qu'on trouverait difficilement dans les équivalents japonais, occidentaux, Patricia Highsmith ou Stephen King, n'est-ce pas ? C'est que Stephen King ne va pas se demander pourquoi écrire en américain moderne plutôt que dans l'anglais de Chaucer, n'est-ce pas ? Mais Tanizaki et Kawabata et même Mishima s'interrogent à chaque fois sur la pertinence de choisir le japonais moderne, enfin le japonais rénové plutôt. Ce n'est pas la langue populaire japonaise qu'on a choisie pour la littérature, vous doutez bien, c'est une langue qui est tout à fait reconstruite, et Tanizaki le souligne très très bien, n'est-ce pas? Et donc c'est-à-dire que tous ces auteurs, parce que on écrivait encore en japonais classique jusqu'au début du XXe siècle, n'est-ce pas? Et même au-delà, puisque tous les documents administratifs étaient rédigés en japonais classique, en japonais de chancellerie en quelque sorte, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc le choix de la langue était encore à justifier presque. Et c'est ça qui est très intéressant. Et dans ce Bunshō Tokuhon, donc dans cet art d'écrire de Tanizaki, et il faut savoir qu'il ne parlait pas dans le vide, Tanizaki a été très profondément influencé par le Genji Monogatari. Il a été influencé, et on a plusieurs de ces nouvelles dont je vous ai donné deux titres ici, Shōshō Shigemoto no Haha et Yume no Ukihashi, donc la mère du général Shigemoto et le pont flottant des rêves. Évidemment, vous reconnaissez l'allusion au Genji Monogatari. Ce sont donc deux nouvelles, deux courts romans ou de longues nouvelles de Tanizaki qui se situent à l'époque de Heian et qui commencent par des allusions directes au Genji Monogatari, n'est-ce pas? Et alors ça, c'est quelque chose de, déjà d'une part, mais le roman le plus connu de... Oui, je ne l'ai pas donné, enfin ce n'est pas la peine. Le roman le plus connu de Tanizaki, n'est-ce pas, qui est le Sasameyuki, qui a été traduit en français sous le nom de Bruine de neige. C'est le chef-d'œuvre de Tanizaki, et ça fait longtemps qu'on a remarqué l'analogie de situation avec le Genji Monogatari. C'est Horiguchi Shinobu, vous vous souvenez de lui, nous avions parlé de lui lors de cette fameuse rencontre entre Kobayashi Shideo et Horiguchi Shinobu. Horiguchi Shinobu disant à Kobayashi Shideo: Motori no Hiraga, c'est le Genji Monogatari, n'est-ce pas? Donc vous voyez que pour Horiguchi aussi, le Genji est un point central. Eh bien, donc on a fait le lien entre le Genji et le Sasameyuki, et je dirais que le chaînon manquant entre les deux, c'est Saikaku. Nous allons le voir tout de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est non seulement cela, mais Tanizaki a passé une grande partie de sa vie. Alors on dit que c'était alimentaire, et etc. Mais c'est quand même c'est loin d'être secondaire. Il a passé une grande partie de sa vie à traduire en japonais moderne le Genji Monogatari. Vous savez qu'il avait été traduit au moins une fois, en entier, par la grande poétesse Yosano Akiko, qu'il avait publié en 1912, donc dans un japonais qui était déjà très, très daté à l'époque de quelques années plus tard, avec l'évolution très rapide du japonais. Et donc Tanizaki a fait trois versions du Genji Monogatari, et ce n'est pas rien, comme vous le savez, c'est un livre très, très long, n'est-ce pas? Et sa première traduction est de 1939-1941, vous rendez compte, c'est en plein début de la guerre. La seconde version, 1951-1954, et la dernière version, 1964-1965. Et comme vous le voyez, 65, c'est l'année de sa mort. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur le Genji Monogatari jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'a pas travaillé tout seul. Il s'était entouré à chaque fois de philologues professionnels, de spécialistes du Genji Monogatari, des universitaires, qui le conseillaient, qui lui donnaient, qui lui faisaient des sortes de pas de brouillon, mais enfin de textes à partir desquels travailler. Et ça rappelle tout à fait, si je puis me permettre cette comparaison, ce qu'avait fait le grand écrivain grec Kazantzakis, n'est-ce pas, qui a traduit Homère, les deux poèmes d'Homère en grec moderne, qui a fait la traduction presque définitive en grec moderne, puisque c'est une traduction qui a écrasé toute tentative supplémentaire de le faire, mais Kazantzaki a travaillé avec un helléniste, un philologue de profession, n'est-ce pas ? Il ne partait pas tout seul. Eh bien, donc, c'est pour vous dire qu'à quel point le Genji est important pour Tanizaki. Eh bien, donc, dans son art d'écrire, il dit que les deux maîtres de la prose japonaise, c'est Murasaki Shikibu et Ihara Saikaku. Voilà. Et il les reconnaît comme les deux grands prosateurs du Japon prémoderne. Et c'est très intéressant parce que on pourrait dire d'un certain côté que Saikaku justifie Tanizaki Junichiro, n'est-ce pas ? Saikaku, nous allons le voir, a en quelque sorte embourgeoisé le Genji Monogatari, embourgeoisé le roman de Murasaki Shikibu, qui se déroule dans le milieu éthéré de la cour, n'est-ce pas ? Et donc, ce qu'on appelle en japonais Kumonoue Bito, n'est-ce pas, ceux qui sont au-dessus des nuages, c'est un monde hors du monde des mortels. Mais Saikaku va reprendre les procédés stylistiques d'un certain côté du Genji Monogatari, mais va les adapter à son propre milieu culturel, qui est celui des marchands, des chōmin, n'est-ce pas, dont il est issu. Parce qu'il faut bien voir que Saikaku, dont le nom était Hirayama Togo, n'est-ce pas, donc le nom bourgeois, si vous voulez, Saikaku, Ihara Saikaku étant un pseudonyme qu'il a repris plus tard, est né dans une riche famille de chōmin, n'est-ce pas, c'est-à-dire de bourgeois, d'hommes des villes, de citadins, de bourgeois au sens de bourg, n'est-ce pas, qui a choisi en fin de compte de ne pas reprendre, un peu comme Norinaga. Vous vous souvenez que Norinaga était lui aussi issu d'une riche famille de Omi, n'est-ce pas, et qu'il est parti vers d'autres destinées. C'est un peu pareil pour Saikaku, qui a commencé sa carrière littéraire en rejetant donc toutes les... Mais il a, vous verrez qu'à la fin de sa vie, il revient à des préoccupations. Enfin, il n'a pas rejeté la bourgeoisie, il a rejeté le travail de le commerçant, mais il s'est consacré à la littérature. Mais il est toujours resté très conscient de l'importance de l'économie, justement, dans les milieux qu'il va décrire. Mais donc, il commence ses premiers pas littéraires, et des pas d'ailleurs assez magistraux, dans ce qui est à la mode à l'époque dans les milieux raffinés. Il n'a pas commencé par le roman, il commence par le haikai, justement, ce qu'on appelle le haiku, qui est en plein essor à l'époque, et il se divise notamment en deux grandes lignées. Encore une fois, vous avez la lignée de Matsunaga Teitoku, qui est un haiku. Alors Teitoku, l'école de Teitoku s'appelle Teimon, n'est-ce pas, en reprenant le caractère Te, n'est-ce pas, que vous avez ici, Sada, n'est-ce pas, de son prénom. On l'appelle l'école de Teitoku, qui était un style raffiné et qui était donc fidèle à l'esthétique de l'époque précédente, de Muromachi, n'est-ce pas. Alors que l'autre école, c'était l'école de Nishiyama Soin, qui est bien postérieur, vous voyez, qui est le grand aîné de Saikaku. C'est une école qu'on a appelée Danrin Fu. Je vous le mets en quatrième ligne, n'est-ce pas ? Donc la mode du alors Danrin, c'est un pour des raisons géographiques, n'est-ce pas, c'est l'école de Nishiyama. Et le Saikaku, vous voyez, Nishinotsuru, le prénom de Saikaku, la grue de l'Ouest, eh bien, il a repris en hommage à Nishiyama, le premier caractère du nom de famille de Nishiyama. La grande distinction entre l'école, le Teemon et le Danlinfu, c'était que le Danlinfu était des haikai, alors peut-être plus fidèles, enfin, c'est moi qui le dis, mais vous savez que haikai, c'est un terme très ancien qui est déjà attesté comme catégorie littéraire dans le Kokinshu, n'est-ce pas, donc de 905, et qui désigne les poèmes facétieux, les poèmes plaisants, les bons mots, ce sont des poèmes qui ont été recueillis dans le Kokinshu pour leur côté un peu moins sérieux que la plupart des poèmes qui étaient recueillis. Et dans l'école de Nishiyama, de Soin, on a remis à l'ordre du jour ce côté drôlatique du haikai et plus populaire. Et Saikaku a d'abord été adepte du Teemon jusqu'à l'âge d'une quinzaine d'années, semble-t-il, et ensuite il est passé au Danlinfu, n'est-ce pas, et où il se sentait plus libre de donner libre cours à sa sensibilité. Il s'ensuit une époque de... Vous savez que il ne faut pas du tout voir le haïkai comme on a tendance à le voir en Europe et aux États-Unis, plus encore aux États-Unis, où le haïkai est une sorte... Le haïku est une sorte de poème unique et d'une inspiration qui en américain on a parlé de ce terme, n'est-ce pas, le haiku moment, n'est-ce pas, c'est cet instant absolument intemporel où le haiku surgit dans l'esprit de l'auteur. C'est si peu japonais que le mot n'existe pas en japonais et qui a été implanté tel quel de l'américain en japonais. On parle maintenant de haiku moment au Japon, ce qui n'a jamais été utilisé autrefois, n'est-ce pas ? Au contraire, le haiku, de même que les edenga, c'est, comme le terme l'indique, c'est de la fabrication en chaîne, n'est-ce pas ? On fait des haiku, à la queue leu-leu, n'est-ce pas ? Et dans les biographies de Saikaku, on considère comme des prouesses le fait de faire le plus grand nombre de haïku possible en un certain laps de temps, n'est-ce pas? C'est un peu comme le concours de mangeurs de hamburger, n'est-ce pas, ou de hot dog. Et le record de Saikaku, il est allé en un jour, 24 heures, en un jour et une nuit, il aurait composé 23 500 haïku. N'est-ce pas, ça rappelle la chanson d'Adriano Celentano, n'est-ce pas, 24 000 baci, n'est-ce pas, 24 000 baisers, traduit par Johnny Hallyday sous ce titre, 23 500 haïku. Si bien qu'on l'avait appelé après Niman-o, n'est-ce pas, Niman no Futayorozu no Okina, le vieux aux 20 000, sous-entendu, le vieux aux 20 000 haïku. Donc vous voyez que c'était quelque chose, il y avait quelque chose d'un certain jeu dans ce cas. Ce n'était pas forcément des jeux drôles, n'est-ce pas? C'était, par exemple, un grand tournant dans la vie de Saikaku, ça a été en 1675, il avait 33 ans, n'est-ce pas, 34 ans à la japonaise, il s'était marié et sa femme meurt en 1675 alors qu'elle avait 25 ans et lui 34. Et ça a été un tournant dans sa vie. Mais en même temps, pour les funérailles de sa femme, pour la cérémonie funéraire, il fait une offrande de 1000 haïku. C'est un millier de haïku. Et cette, le malheur de la disparition de sa femme a sans doute joué dans, a joué sans doute dans, dans sa composition littéraire. C'est 1675. Et on sait qu'à l'époque, il est entré, alors il est entré dans la vie religieuse. Évidemment, pour, c'est un élément très important pour moi. C'est très vague, on ne sait pas. La seule note biographique, je crois, qui le note, dit Hottai Nishte, n'est-ce pas ? Hottai Oshte. Il a pris la dignité religieuse, ce qui ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas ? Il a pris la tonsure, il a peut-être pratiqué pendant un certain temps auprès d'un maître ou dans un temple bouddhique, dans un monastère. On ne sait pas exactement, ou simplement il s'est peut-être mis en retrait du monde, c'est simplement un autre mot, une autre appellation de inkyo, n'est-ce pas ? Le fait de se trouver retiré du monde. Il y a là en tout cas une certaine période de... une certaine période de distanciation. Il ne renonce pas au haïkai, parce que son fameux record de 23 500 dont je vous parlais tout à l'heure date de 1684. Donc il n'a pas du tout renoncé de 88, excusez-moi. Mais il y a quand même quelque chose qui est... Un tournant littéraire qui s'est engagé ici et qui va se concrétiser en 1682, puisque va apparaître à ce moment-là sa première œuvre romanesque. Ce n'est pas une prise de position, je prends romanesque, vous verrez vous-même que la terminologie est très vague, n'est-ce pas ? Mais il va reproduire. Il va produire un livre un roman qui va faire école en quelque sorte, qui va avoir une grande influence dans la narration japonaise. C'est le Koshoku Ichidai Otoko, donc qui a été traduit par La vie d'un libertin. Je reviendrai la semaine prochaine sur ce terme de Koshoku qui va nous qui va nous occuper un certain temps. Gardons pour l'instant le terme de libertin, pourquoi pas. C'est un très grand succès. Il fait partie de ce genre qu'on appelle les ukiyo-zoshi. Alors, c'est un terme qu'on a rencontré très souvent dans la poésie de Heian. Vous savez, ukiyo, qui désignait à l'époque de Heian le monde sinistre, le monde, c'est ushi, n'est-ce pas, à partir de l'adjectif ushi, qui veut dire triste, sinistre, de mauvais augure, etc. Et puis, en changeant le caractère de Ushi, qui s'écrit avec un caractère qui veut dire sinistre normalement, mais déjà dès l'époque de Heian, on a joué sur le terme, donc ce n'est pas une innovation, en Ukiyo, le monde flottant, n'est-ce pas, c'est le monde inconsistant, le monde aussi inconsistant que l'écume, et qui en est venu aussi à désigner le monde, le quartier des plaisirs, la vie de plaisir, etc. Donc ce qu'on a traduit en français, par le monde flottant. Donc ukiyo-zoshi, littéralement les livrets, les petits livres, les libelles du monde flottant, qui est un genre littéraire qui est inauguré par ce Saikaku et par ce premier livre. Et ce ukiyo-zoshi, et singulièrement ce qu'on appelle dans ce cadre les koshokumono, les livres consacrés à la sensualité, eh bien, ça va former une sorte d'école. Je vous ai donné ici trois noms que vous pouvez retenir si vous voulez continuer là-dessus, mais qui sont pratiquement plus connus aujourd'hui. Je vous donne trois noms représentatifs dans le libertinage, voilà, puisque certains de ces auteurs, en particulier Hashimonji Yajisho, n'est-ce pas, est considéré comme voisin de la pornographie. Il ne faut pas non plus exagérer, ce sont des choses quand même très, très relativement innocentes par rapport à ce qui se sera plus tard, mais c'est vrai qu'il est plus déluré, en quelque sorte, que, que, dans ses descriptions que Saikaku, en particulier dans ce premier livre de la vie d'un libertin. Alors, on pourrait considérer ce roman comme une sorte de Genji Monogatari décalé, n'est-ce pas ? Je vous ai déjà dit, je reviendrai un peu là-dessus au quatrième cours, je crois, sur le décalage du Genji, mais n'oubliez pas, par exemple, cette vie de libertin est divisée en 54 histoires. 54 histoires, 54 épisodes, si vous voulez. Or, évidemment, 54 épisodes, ça vous dit tout de suite, après les deux années que nous avons passées dessus, vous savez tous que c'est le nombre de chapitres canoniques. Je ne parle pas de l'histoire de la constitution du texte, mais le texte reçu du Genji Monogatari, c'est 54 chapitres. Et donc, le Koshoku Ichidai Otoko, divisé en 54 épisode reproduit, fait encore une fois un décalage du Genji Monogatari. Vous voyez toujours ce décalage qui est la marque de l'évolution de la culture japonaise à chaque fois. Et l'autre grande analogie, c'est que le héros, ce Genji Monogatari, ce Koshoku Ichidai Otoko, narre la vie d'un héros, du protagoniste, exactement comme le Genji Monogatari est consacré à la vie du Genji. Et dans le roman de Saikaku, c'est bien balisé, n'est-ce pas, selon l'âge du protagoniste à chaque fois. Et ce qui est très différent, c'est qu'on ne parle pas de Genji. Ici, le héros, le protagoniste, s'appelle Yonosuke. Yonosuke, suke, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une sorte de support pour les noms propres, mais le Yonosuke, c'est le yo qu'on a dans ukiyo-e, n'est-ce pas ? Donc c'est celui du monde, celui qui est dans le monde, phénoménal. Et on peut dire que le Genji Monogatari s'est embourgeoisé dans le Koshoku Ichidai Otoko, puisque tout ce qui était consacré à la cour impériale, au monde extrêmement raffiné de la cour impériale, va devenir chez Saikaku transposé dans le quartier des plaisirs, où les histoires extraordinairement galantes qui étaient désintéressés dans le Genji Monogatari, n'est-ce pas, c'était des gens qui n'avaient pas de problème pour vivre, mais dans ce pseudo univers clinquant du quartier des plaisirs, le kurua, qu'on appelle en japonais, n'est-ce pas, le irozato, etc. Eh bien, dans cet univers, tout est faux, tout est régi par des contraintes qui sont beaucoup moins enchantées que dans le Genji Monogatari. Et on peut dire que c'est une étape dans la désacralisation du monde du Genji, et je vous ai donné la dernière étape, c'est ce fameux roman de Ryūtei Tanehiko, qui est pratiquement contemporain de Bakin, qu'on appelle le Nisse Murasaki Inaka Genji, le Genji rustique, n'est-ce pas, le Genji des campagnes, la pseudo Murasaki. Et on peut considérer d'un certain côté que le Koshoku Ichidai Otoko et les Koshoku Mono de Saikaku, donc les romans traitant de la vie du quartier des plaisirs, sont une étape dans cette mondanisation du Genji. Je n'aurai pas le temps d'insister trop sur tous les aspects de cette vie japonaise qui est très extrêmement importante, au moins dans l'aspect littéraire à l'époque. Je renvoie à un livre qui vient de paraître vraiment par un hasard tout à fait extraordinaire. Il est paru au mois de septembre ou d'octobre de 2020. Philippe Ponce et Pierre-François Suiri, donc L'esprit de plaisir, une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon, XVIIe, XXe siècle. Ce ne sont pas les seuls à avoir abordé le problème. On pourrait parler aussi de Jan Buruma, qui a écrit « The Pink Samurai », qui n'est pas cité, je ne sais pourquoi, peut-être, enfin, bon, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec certains. Et puis vous avez aussi les livres de Agnès Giard, n'est-ce pas, sur l'érotisme japonais. Mais le livre de Philippe Ponce et Pierre-François Suiry sont vraiment une étude sociologique, en quelque sorte, et idéologique de ce monde. C'est pour ça que je vous en recommande la lecture. Alors, on retrouvera quelque chose de tout à fait intéressant dans cette vie d'un libertin, c'est qu'il est centré sur un homme qui ne vit que pour le plaisir et qui n'a aucune préoccupation morale, n'est-ce pas ? Et ça vous rappellera certainement quelque chose. Je reviendrai bien sûr là-dessus. Motoori Norinaga avait déjà soulever le problème de la non-moralité, l'amoralisme du Genji, lui-même, dans le Genji Monogatari. On a à peu près la même chose, et c'est quelqu'un qui vit pour le plaisir, et qui non seulement vit pour le plaisir, mais n'en conçoit aucun regret, n'est-ce pas, aucune repentance, et même ça finit même par une sorte d'apothéose, puisque le héros Yonosuke ne meurt pas, mais il part pour l'île des femmes, l'île aux femmes, n'est-ce pas, où il passera l'éternité à continuer ce qu'il aura fait pendant sa vie. Alors c'est donc quelque chose de tout à fait intéressant. De ce point de vue, puisque on est dans une description qui est entièrement fondée sur ce concept de ido que nous allons revoir, que je traduis par sensualité ou plaisir, et sur lequel nous allons revenir la prochaine fois et voir son rapport avec la avec quand même l'idée de morale qui est présente, vous allez le voir. Donc ça, c'était en 82, n'est-ce pas ? Comme ça arrive souvent, devant le succès de ce livre, en 1684, Ihara Saikaku recommence, fait une suite, une séquelle, n'est-ce pas ? Alors, c'est pas Yonosuke revient, mais il fait un Koshoku Nidai Otoko, littéralement seconde vie d'un libertin, vie d'un second libertin plutôt, et dont le titre sous lequel il est plus connu, c'est le Shōen Okagami, qui nous a servi de titre à notre leçon, c'est-à-dire le grand miroir des voluptés. Ce grand miroir des voluptés. Et alors, nous reverrons plus en détail la façon dont il se lit au premier, et vous verrez les liens avec le Genji Monogatari, encore une fois. C'est un livre extrêmement différent, et c'est pour ça que nous intéresserons à celui-ci en priorité cette année, exclusivement même, pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais d'abord, c'est un livre, le côté un peu... frénétiquement luxurieux du premier est très 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 modéré cette fois-ci. Il y a des préoccupations religieuses bouddhiques qui sont beaucoup plus présentes, et il y a d'autres thèmes qui nous intéresseront. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la relation fragmenté avec le premier. Je vous donne aussi deux autres titres très importants de Saikaku qui sont le Koshoku Ichidai Onna, et là il change complètement, radicalement avec le Genji Monogatari, puisque le Genji Monogatari est fondé sur la vie d'un homme, n'est-ce pas, le Genji. Ici c'est la vie d'une femme, amoureuse, qui est une vie d'ailleurs c'est une vie de déchéance, je pense. C'est une femme qui vit dans le qui a choisi de céder à ses, de céder à ses passions, et ça va se, évidemment, ça va, l'itinéraire sera malheureusement assez convenu. Et dans un autre livre très, très intéressant, qui est le Koshoku Gonin Onna, tout cela est traduit en français, n'est-ce pas? Donc vous avez traduit son nom de cinq amoureuses, n'est-ce pas? Là, ce sont les vies de cinq femmes qui se sont sacrifiées à l'amour pour un homme, n'est-ce pas? Donc ce ne sont pas du tout des libertines, au contraire, ce sont des femmes trop fidèles. Et on pourrait mettre ces deux romans dans la catégorie de ce que j'appelle les sewamono, de ce qu'on appelle les sewamono, c'est-à-dire les on pourrait en anglais on parlerait de true crime, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce sont des faits réels, des doubles suicides, des meurtres, etc., qui se sont produits à l'époque dont Saikaku a fait son miel en quelque sorte. Alors il y a d'autres choses très intéressantes que je n'aurai pas le temps de revenir dessus. Je me permets de citer le quatrième ici, Nanshoku Okagami, qu'on peut traduire par le grand miroir de la pédérastie ou de l'amour mâle, l'amour viril. Et vous verrez que ce n'est pas si décalé dans l'œuvre de Saikaku, puisque le Ichidai Otoko fait aussi allusion aux amours homosexuels, mais très brièvement. Ici, il s'y adonne complètement. Et c'est un recueil très intéressant, puisqu'il divise le livre en deux parties, les guerriers d'un côté, n'est-ce pas, et de l'autre côté, les acteurs. Ce sont les deux mondes où l'homosexuel... On aurait pu ajouter aussi le monde des moines, mais enfin, c'est une autre... Il n'a pas voulu se lancer là-dedans. C'est traduit aussi en français, donc vous ne... ça se trouve très facilement. Donc, il a été écrit en 1687. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, enfin, dans les dernières publications de Saikaku reviennent à des préoccupations beaucoup plus économiques. Et ces deux derniers romans, le premier surtout, le Nihon Eitai Gura, est très connu, a été redécouvert en quelque sorte à l'époque moderne. On pourrait le traduire par le magasin perpétuel du Japon. Je pourrais, en grossissant un peu, en forçant un peu le trait, je pourrais presque traduire par le coffre-fort perpétuel du Japon, n'est-ce pas, qui est consacré à la façon de faire fortune et à la façon de perdre sa fortune. Ce sont des histoires économiques fondées sur l'économie, si bien que un critique du nom de Taniwaki Masachika, dans le livre dont je vous donne le titre en deuxième ligne, n'est-ce pas, Keizai Shosetsu no Genten Nihon Eitai Gura, c'est-à-dire le magasin du Japon comme point de départ du roman économique, a défini Saikaku comme le fondateur d'un genre littéraire qui me semble tout à fait unique au Japon. Je ne sais bon, il faut dire que je ne me suis pas spécialement intéressé, mais je ne sais pas s'il existe sous la même forme aussi systématique dans les autres pays. C'est ce qu'on appelle au Japon justement le Keizai Shosetsu, les romans économiques qui sont fondés sur des histoires de kaisha, n'est-ce pas, de firmes, qui ce sont en général les histoires entre concurrents, les coups tordus que l'on se fait pour acquérir tel ou tel marché, et dont le grand protagoniste, le premier grand romancier, romancier japonais moderne, c'est Shiroyama Saburo, dont le premier roman portant sur ce thème a été publié, je crois, en 1957. Et Il est amusant, il est intéressant que l'on reconnaisse Ihara Saikaku comme fondateur de ce genre, c'est-à-dire qu'il aurait en quelque sorte fondé il aurait fondé deux genres littéraires à la fois, ce qui est quand même pas mal pour un seul écrivain, le Kosho Kumono, donc les récits du monde des plaisirs, nous y reviendrons la prochaine fois, et le Keizai Shosetsu, le roman économique japonais contemporain. Son dernier roman, quand je dis roman, à chaque fois, je reviendrai là-dessus, ce sont plutôt des recueils d'épisodes autour d'un thème commun, n'est-ce pas, ou d'un personnage commun. Et c'est le Seiken Munazanyo, n'est-ce pas, le calcul mental Seiken qu'on est obligé de faire pour subsister dans le monde. Et ce sont des histoires un peu tristes et comiques à la fois de gens perclus de dettes qui doivent payer leurs dettes le jour de l'an, puisque c'est le jour où on doit régler ses dettes, n'est-ce pas? Alors, voici très, très brièvement donc la présentation générale de Saikaku et de son œuvre. Dès la prochaine fois, nous allons entrer dans l'histoire de deux conceptions importantes pour mieux comprendre la façon dont Saikaku jongle avec des idées anciennes japonaises. Et j'expliquerai ensuite pourquoi nous avons choisi le grand miroir des voluptés comme fil rouge de cette année. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que le public sera aussi nombreux. Merci.